Bonjour à tous, l'actualité de ce jeudi 11 octobre dans les Alpes du Sud, les titres. Le parquet de Gap lance un appel à témoins après la découverte d'un bébé dans un sac cabas vendredi soir à Briançon. Un couple a été placé en garde à vue puis remis en liberté, des analyses ADN sont en cours. Joël Patrick Théry est désormais le nouveau patron de la police nationale des Hautes-Alpes. Il a officiellement été installé hier. Le commissaire qui a plusieurs priorités, lutter contre les stupéfiants, les infractions routières, mais aussi les cambriolages. Il aurait mis sa démission dans la balance pour obtenir le poste de ministre de l'Intérieur, selon le journal Libération. Christophe Castaner dément sur Alpe 1, c'est n'importe quoi. Améliorer l'accès aux soins, c'était le thème d'une conférence organisée par l'ARS hier dans les Alpes de Haute-Provence, l'agence régionale de santé qui souhaite accompagner la révolution numérique de santé. Un appel à témoins lancé par le parquet de Gap après la découverte d'un nourrisson à Briançon. Toute personne en possession d'informations doit se faire connaître auprès du commissariat de Briançon. Ce bébé a été découvert vendredi soir par un passant dans le quartier Les Toulousaines. Le nourrisson se trouvait dans un sac au niveau du conteneur à poubelle. L'enfant, qui est hospitalisé sur Briançon, se porte bien. Ce mardi, un couple a été placé en garde à vue en fin de matinée, puis ils ont été remis en liberté. Tous deux nient être les parents de la fillette. L'enquête pour délaissement de mineurs de moins de 15 ans se poursuit, des analyses ADN sont en cours. Et après le décès de deux militaires du 4e régiment de chasseurs à Gap, l'enquête rend ses premières conclusions. Il s'agit d'une chute accidentelle. Ces deux hommes de 24 et 34 ans qui n'étaient pas en service ce jour-là avaient été portés disparus le 29 septembre alors qu'ils partaient en permission avec pour objectif de gravir le dôme des écrins. Ils avaient passé la nuit de vendredi à samedi au refuge des écrins mais n'avaient pas donné de nouvelles par la suite. C'est la compagne de l'un d'entre eux qui avait donné l'alerte. Les corps des deux victimes avaient été retrouvées le lendemain matin. Ils auraient dévissé dans leur descente. Une fourgonnette a percuté un vélo hier. Le cycliste a été éjecté dans le canal EDF. L'accident s'est produit peu avant, 14h sur la départementale 20 à Plan de Vitrolles. L'un des deux occupants de la fourgonnette a sauté à l'eau pour récupérer la victime et la remonter. Le cycliste était conscient à l'arrivée des secours, mais en urgence absolue. Il souffrait de traumatismes crâniens ainsi que de traumatismes au niveau du rachis. Dans l'actualité également, la police nationale des Hautes-Alpes a désormais un nouveau patron. Joël Patrick Théry succède à Pascal Manicacci. Il a été officiellement installé hier matin dans ses fonctions de directeur départemental de la sécurité publique. Il a notamment exercé en région parisienne à Grenoble, mais aussi en Guyane. Pour le département, il a listé quelques-unes de ses priorités. La lutte contre les stupéfiants et les infractions routières, la baisse du nombre de cambriolages et la mise en place de la police de sécurité du quotidien. Écoutez le commissaire Théry.
J'essaye de décloisonner pour l'instant, d'aller vraiment, que ce soit au SDIS, à la chambre de commerce, voir mes camarades gendarmes ou autres. Il faut qu'on se connaisse parce qu'on a des problématiques communes. Et vraiment, l'objectif, c'est de travailler ensemble, c'est de décloisonner au maximum la police nationale.
Qu'est-ce que permet ce décloisonnement, justement ?
Il permet d'être plus réactif, de mesurer les signaux faibles lorsqu'on a des problématiques et d'y répondre le plus simplement possible. Ça peut être des buralistes qui souhaitent qu'on fasse de la prévention situationnelle, qu'on leur explique quels sont les risques, comment y répondre. On peut très bien faire de la prévention auprès des seniors. On peut très bien lutter contre les trafics de stupéfiants dans les cités, même si elles sont de faible importance au niveau des cités, au niveau de Gap. Il faut être pluriel, il faut être offensif, il faut faire de la prévention, il faut dissuader, il faut être généraliste.
Et Joël Patrick Théry a eu un mot pour ces hommes à un moment où certains policiers évoquent leurs conditions de travail difficiles et le manque de moyens. Un livre est d'ailleurs sorti sur le sujet, « La peur a changé de camp » de Frédéric Ploquin. Écoutez le commissaire.
Ce que je leur dis, c'est qu'ils ne sont pas fonctionnaires de police, ils sont policiers. Ça veut dire qu'à partir du moment où ce sont des policiers nationaux, nous sommes là pour répondre aux attentes légitimes de la population. Donc il faut s'ouvrir à la population, ne pas avoir peur de la population, et après il faut que nous priorisions nos missions. On ne peut pas tout faire et le faire correctement. Donc c'est à moi de définir quelles sont les priorités par rapport à mes lettres de mission, et à partir du moment où j'aurai défini les priorités, je verrai avec mes personnels comment mettre en place les dispositifs.
Le commissaire Joël Patrick Théry au micro de Quentin Pérez de Tudela. Eux aussi assurent la sécurité des personnes. Les membres de la Croix-Rouge peuvent être là lors de situations d'urgence. À l'occasion des rencontres de la sécurité, la Croix-Rouge des Hautes-Alpes fera une démonstration d'une intervention de secours à victimes traumatisées. L'idée, faire connaître au public les différentes actions de la Croix-Rouge. Yannick Fortu, directeur territorial de la Croix-Rouge française des Hautes-Alpes.
La Croix-Rouge donc est intervenue donc en soutien aux personnes impliquées lors du crash aérien donc qui a eu du côté de Seine-les-Alpes, donc notamment pour l'accueil donc des familles des passagers. Nous sommes également intervenus lors des grosses intempéries neigeuses où là donc on a ouvert des centres d'hébergement pour pouvoir accueillir donc les vacanciers dans un endroit chaud, leur proposer du café et les alimenter un petit peu parce qu'ils n'avaient plus accès aux stations de ski pour leurs vacances, donc pour cette soirée-là. Et nous avons été sollicités dernièrement, mais pas déclenchés, pour la catastrophe du Pas de l'Ours, donc le glissement de terrain qui est en train de se produire et pour l'instant donc qui est de manière stagnante. Nous sommes en préalerte par rapport à cela pour évacuer justement des populations. C'est la préfecture ou l'agence régionale de santé qui nous appellera donc si malheureusement ce pan de montagne vient à dégringoler.
Notez que la démonstration de la Croix-Rouge aura lieu ce samedi à 17h30, place Alsace-Lorraine à Gap. Volet politique dans ce journal, vous le savez, la composition du nouveau gouvernement sera dévoilée demain. Christophe Castaner occupera-t-il un nouveau poste que celui de secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement ? Selon le journal Libération, le patron de La République En Marche aurait mis sa démission dans la balance pour récupérer le fauteuil de ministre de l'Intérieur. N'importe quoi, répond l'intéressé sur LPE1, les précisions d'Alex Cam.
Oui, la réponse à notre rédaction est en effet claire après l'article de Libération. Selon les confidences obtenues par Le Quotidien, Jean Castex, ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Sarkozy, s'est vu proposer le poste de ministre de l'Intérieur, mais cela ne se fera pas, la faute à Christophe Castaner, poursuit Libération, qui explique que le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement a menacé de démissionner du gouvernement si jamais il n'obtenait pas le Marocain laissé vacant par Gérard Collomb. Interrogé par Alpe 1 à l'issue du conseil de ministres de ce mercredi, Christophe Castaner dément. N'importe quoi, lance-t-il. Selon le numéro 1 du parti La République En Marche, c'est mal connaître le chef de l'État pour croire que la démission est un élément de pression. Ils me connaissent mal aussi pour croire que ce sont mes méthodes. Ils connaissent mal notre mode de fonctionnement l'un avec l'autre, ajoute Christophe Castaner. Enfin, selon nos informations, Jean Castex aurait lui-même démenti les affirmations de Libération. Quoi qu'il en soit, en matière d'agenda, le remaniement attendu depuis plus d'une semaine n'aura finalement pas lieu avant la fin de la semaine. L'Élysée a annoncé dans un communiqué qu'avant de composer une nouvelle équipe cohérente, le président souhaite prendre tout le temps nécessaire dans le calme, le professionnalisme et le respect des personnes.
Merci Alex. À la Ragne Montéglin, c'est Jean-Marc Duprat qui est désormais le nouveau maire de la commune après la démission d'Henriette Martinez. Un choix suivi par la majorité en place alors que les deux groupes d'opposition avaient présenté leur propre candidat. Pour Jean-Marc Duprat, il faut finir le travail entamé depuis les élections sans penser pour le moment à 2020. Écoutez-le.
On va finir le travail qui a été entamé depuis les élections et s'occuper uniquement de la gestion de la Ragne. J'ai été toujours fidèle à Henriette, même s'il y avait des points où nous n'étions pas d'accord, mais j'ai toujours été fidèle avec elle, et il était prévu dans d'autres conditions que celle-là qu'elle passe la main. Je ne suis pas encore à savoir pour les prochaines élections. Je fais mon travail, je fais mes preuves, je les ai déjà faites en tant que premier adjoint, avec les délégations qui m'étaient données. Je vais travailler en tant que maire maintenant.
Une interview que vous pouvez retrouver sur alpe1.com. Ce mercredi soir, la soirée L'Entreprise fait son show, organisée par l'Union des entreprises des Alpes-de-Haute-Provence, se tenait à Manosque sur le thème « Révéler la confiance ». Invité lors de cette soirée, Éric Heyer, le directeur du département Analyse et Prévision à l'OFCE, revient sur alpe1 sur le rapport que devront avoir demain chefs d'entreprise et salariés. Des liens entre les deux parties qui ne changent peut-être pas assez, selon l'économiste, et qui demain pourraient se bâtir autour d'une co-construction du modèle de travail au sein de l'entreprise.
Vous voyez qu'aujourd'hui, effectivement, quand on lit les enquêtes d'opinion, notamment chez les jeunes aspirent à beaucoup plus d'autonomie. Et en fait, ils ne trouvent pas cette autonomie au sein des entreprises et donc peuvent bifurquer vers une indépendance, et une indépendance qui n'a rien à voir avec l'autonomie. Donc, de ce point de vue-là, et quand on regarde d'autres enquêtes, on s'aperçoit bien que, effectivement, la France se singularise de beaucoup de pays développés parce qu'on ne s'épanouit pas au travail. et on n'a pas l'autonomie rêvée. Donc effectivement, il faudrait réfléchir, puisque on voit bien qu'une piste intéressante serait d'inverser cette notion de flexibilité et de se dire que ben, c'est peut-être le salarié qui peut proposer la façon dont il aimerait travailler et que le chef d'entreprise, bien sûr, décide d'accepter ou non, mais que ça vienne d'en bas, ça vienne des salariés pour que ce dernier soit s'épanouisse, soit plus productif et on gagnerait comme cela à être un peu plus compétitif.
Des propos recueillis par Alex Cam. Toujours dans les Alpes de Haute-Provence, une conférence était organisée hier par l'Agence régionale de santé avec comme thème améliorer l'accès aux soins. L'ARS souhaite accompagner la révolution numérique de santé et simplifier la vie des professionnels de santé pour leur dégager du temps pour les soins. Anne Hubert, déléguée départementale de l'Agence régionale de santé des Alpes de Haute-Provence, est notamment revenue sur l'utilité des maisons de santé.
Une des mesures phares qui est développée dans le département comme dans les autres départements, c'est le développement des structures d'exercice coordonnées. Donc, à ce jour, nous avons donc 5 maisons de santé, une à Castellane, à Sainte-Tulle, à Seine-les-Alpes, à Digne-les-Bains et à Sisteron. Ces maisons de santé, elles ont permis l'arrivée de 7 nouveaux médecins généralistes dans le département. Donc, notre action va être de développer, d'encourager et d'accompagner les projets des autres maisons de santé. Donc, ces maisons de santé seront complétées par un certain nombre de projets qui sont en cours. On a un projet de maison de santé à Barcelonnette, qui devrait voir le jour quand même assez prochainement, un projet de maison à Vologne, un à Fort-Calquier. Ces projets-là sont assez avancés. Il y a également une intention qui commence à Gréoux-les-Bains. Et puis, on a un projet de CPTS sur le territoire de Riez. Une réunion a eu lieu récemment à l'initiative de Madame Bagary le 8 octobre et qui a permis de réunir une trentaine de professionnels. On voit donc que les professionnels de santé, médecins et paramédicaux souhaitent désormais travailler ensemble pour améliorer le parcours du patient sur leur territoire.
Des propos recueillis par Michel Bonnefoy concernant le pôle de santé Haute-Provence porté par Cap Santé 04 à Maligé. Anne Hubert assure qu'il ne s'agit là que d'un projet immobilier et que l'ARS n'a pas encore de connaissances sur l'équipe de professionnels qui doit s'installer dans ce pôle de santé privé. Enfin du sport, c'est avec Romaric Ponce. Et Romaric, aujourd'hui on va parler flamenco.
Une danse andalouse que Lorena de Bresse propose d'enseigner de manière hebdomadaire à Gap depuis début octobre. Cette danseuse est également professeure de flamenco. Elle a démarré ses cours dans la capitale douce vendredi dernier à la Petite Seine. Deux cours, l'un à 20h pour les débutants, l'autre à 21h pour les niveaux plus avancés. Avec au programme travail technique et chorégraphique, Lorena de Bresse.
Là, dans les cours que je propose, il y a un travail sur la technique même de la danse flamenca. Un travail du zapateado qu'on a flamenco, c'est la combinaison des mouvements de pied qu'on peut voir plus ou moins compliqués suivant l'expérience du danseur. Donc un travail sur cette technique-là, et là physiquement c'est le plus compliqué parce que ça demande de l'endurance et une technique à travailler. Ensuite on peut travailler la gestuelle, la posture et les pirouettes. Après on travaille la technique et la chorégraphie puisqu'on étudiera une danse, un style de danse parmi l'éventail des styles de danse proposés en flamenco.
Lorena de Brecky, à l'origine, est venue au flamenco par son expérience de spectatrice.
Une expérience de spectatrice, en fait. J'ai vu des spectacles et de danse et écouté de la musique. Et ayant pratiqué beaucoup d'autres danses, le contemporain et le modern jazz notamment, avant, je me suis entichée du flamenco et voilà, il y a quelques années maintenant, et ça ne m'a plus quitté.
Lorena Debray, professeure et danseuse de flamenco, qui propose donc désormais des cours hebdomadaires à Gap via l'association El Coral Flamenco. Elle qui enseigne déjà à Laragne et Fort-Calquier. Si vous souhaitez vous en rapprocher, sachez que la structure possède une page Facebook.
Merci Romaric.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.